puisque nous sommes dans cette situation de péché, situation de pécheur, qui conduit à la mort, qu'est-ce que Dieu a mis sur pied pour nous sortir de là? On a commencé à regarder le plan de sauvetage de l'humanité au travers des Écritures. On a analysé, dessiné un texte de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qui contient toute cette stratégie de Dieu pour sauver l'humanité. Et maintenant, on regarde la même chose. En fait, qu'est-ce que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité? Mais on a commencé à l'analyser au travers d'une ancienne image de l'Ancien Testament qui est le sanctuaire israélite, qui en réalité est une parabole vivante. Une parabole qui nous aide à comprendre comment Dieu veut sauver l'être humain. Et je dis l'être humain parce que tous les êtres humains sont invités à être sauvés par le même plan du salut. Il n'y a pas un plan pour les Juifs dans l'Ancien Testament et puis un plan pour les chrétiens dans le Nouveau. Dieu a mis sur pied un plan pour sauver l'être humain. Qu'est-ce que ce plan contient? Il va être enseigné d'une façon différente pour ceux qui vivent avant Jésus que pour ceux qui vivent après. Simplement parce qu'avant, ils regardent en avant vers quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui est difficile à comprendre, est différent pour nous qui sommes après parce que c'est quelque chose vers lequel nous regardons en arrière et nous sommes en mesure d'avoir d'autres éléments pour le comprendre un petit peu plus largement. Donc il a fallu dans l'Ancien Testament un outil pédagogique simple, clair à la fois, qui impliquait les humains et qui soit de nature à toucher leur cœur pour qu'ils comprennent comment Dieu veut les sauver. C'est au travers de l'image du sanctuaire que ce plan est révélé. Ce que je vais faire, c'est résumer ce qu'on avait dit la dernière fois. L'histoire du temple, du tabernacle ou du sanctuaire commence au moment où le peuple d'Israël est dans le désert, c'est-à-dire 1445 environ avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël était en Égypte pendant un peu plus de 2 siècles comme esclave et Moïse est allé le chercher parce que Dieu lui avait envoyé pour faire sortir le peuple d'Égypte. Ils sont ensuite partis dans le désert avec comme objectif de rejoindre, entre guillemets, la terre promise, la terre qui avait été promise à Abraham. Ce faisant, ils vont traverser le désert. Maintenant, à cause de leur rébellion, à cause du fait que ces gens, pendant 2 siècles, ont perdu le contact avec Dieu et son enseignement, Moïse a affaire à un peuple qui est un peuple assez mélangé, parce qu'il y a des Égyptiens avec eux, il n'y a pas que des Hébreux, et c'est un peuple qui a oublié, qui est illettré du point de vue religieux, si on veut. Donc tout est à recommencer dans l'éducation de ces gens-là. Ils savent qu'il y a une promesse, la promesse d'Abraham par rapport à une postérité, un peuple grandissant et un lieu, mais le reste est devenu très, très schématique. Donc arrivés dans le désert, ces gens vont se rebeller, vont avoir du mal à comprendre le plan de Dieu, et finalement, cette génération-là va passer. Et c'est seulement la génération suivante qui va arriver dans la terre promise 40 ans plus tard. Maintenant, au début de ce séjour dans le désert, Dieu veut rééduquer ce peuple et le meilleur moyen, c'est de leur donner quelque chose à faire. Donc, il va leur proposer de construire un temple pour lui, un temple pour le culte de Dieu. Ils vont utiliser pour ça tout ce qu'ils ont pris d'Égypte en partant. Vous vous souvenez que les Égyptiens les avaient frustrés de leur salaire durant leurs années d'esclavage. Et lorsqu'ils sont partis, c'était le contraire. Les Égyptiens leur ont dit, écoutez, prenez ça, mais fichez le camp de là, on ne veut plus vous voir. Suite aux 10 plaies qui avaient vraiment atteint le pays d'Égypte en profondeur, le peuple va donc partir. Et peu de temps après, Dieu va leur demander de construire le sanctuaire. Alors j'ai ici le texte de l'Exode, du livre de l'Exode au chapitre 25, où il est dit au verset 8, Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Exode chapitre 25, verset 8. Moïse va donc faire construire le sanctuaire en fonction des indications qu'il va recevoir de Dieu. Et ces indications, on les a en particulier dans le livre de l'Exode, entre le chapitre 25 et le chapitre 40. Le chapitre 40 étant le chapitre qui raconte comment le sanctuaire va être monté pour la première fois. Vous pouvez vous amuser à lire ça. Vous allez vous demander pourquoi Dieu leur a donné des instructions si complètes, si complexes, etc. On pourrait s'amuser à étudier les chapitres 25 à 40 en détail. On ne va pas le faire. Mais juste pour vous dire qu'il y a un sens particulier dans les textes inspirés, je peux juste vous donner ceci. Les instructions que Dieu donne pour construire le temple, le sanctuaire, sont présentées à Moïse en 7 étapes, qui commencent toutes par une déclaration du texte qui dit « L'Éternel parla à Moïse et dit ». On a donc 7 révélations que Dieu va donner à Moïse, contenant les instructions pour construire le sanctuaire et arriver au montage du sanctuaire au chapitre 40. Et il y a nécessairement dans ces chapitres un parallèle avec les 7 jours de la création, en arrivant à la fin avec un parallèle entre le montage du sanctuaire et le sabbat, le 7e jour de la semaine. Alors, on regardera cette dimension-là plus tard, mais simplement pour vous dire que si vous lisez ces chapitres-là et que vous vous demandez où ça va, il y a un fil rouge au travers de tous ces chapitres-là, parce que ces chapitres sont reliés à d'autres notions de l'Ancien Testament. Dieu va donner des instructions à Moïse, et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, on n'a pas besoin de relire le texte, il est dit au début du chapitre, ce que Dieu avait dit à Moïse, voilà, je te montre le modèle sur la montagne, construis le sanctuaire selon le modèle que je t'ai montré. Donc Dieu a donné une vision à Moïse, dans laquelle il a vu quelque chose dans le ciel, avec pour mission de refaire la maquette sur la terre. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Je vais simplement vous décrire le sanctuaire. Ce sanctuaire-là est d'abord constitué d'une enceinte qui fait 50 mètres de long sur 25 de large, environ. C'est donné dans le texte biblique en coudées. Alors, suivant quelle mesure on donne à la coudée, ça sera plus ou moins long. C'est environ un demi-mètre, à peu près. Ce qui veut dire qu'on a là une enceinte qui fait 50 mètres sur 25 de large. Cette enceinte est constituée de 60 colonnes qui sont construites selon des instructions précises. Et sur ces colonnes, avec le système rideau, on a un voile blanc qui fait tout le tour. Et tout le peuple d'Israël est installé autour, avec 3 tribus par côté. Les Lévites, qui sont eux responsables du sanctuaire, pour des raisons particulières indiquées dans le texte, eux, ils sont installés immédiatement tout autour, ils font le tour du sanctuaire, et le reste des tribus est organisé derrière. L'entrée de ce sanctuaire est toujours à l'est, parce que la plupart des temples de cette époque étaient des temples liés avec le culte du soleil. Et par conséquent, l'adoration du soleil se faisait face au soleil levant. Le temple que Dieu demande de construire est fait exactement dans l'autre sens, de manière à ce qu'on tourne le dos au soleil quand on vient adorer. Je vous avais mentionné la dernière fois le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 8, où Dieu va montrer au prophète qu'à l'intérieur même du temple, cette fois-ci à Jérusalem, il y a des gens qui vont installer un culte du soleil à l'intérieur du temple de Dieu et qui, par conséquent, doivent tourner le dos au temple de Dieu pour adorer le soleil. Donc la porte, l'entrée du sanctuaire est toujours à l'est. Maintenant, à l'intérieur de cette enceinte, on va avoir 3 lieux. Ce lieu ici, qui est le parvis, et dans ce bâtiment-là, on va avoir 2 pièces, le lieu saint et le lieu très saint. 2 pièces qui sont séparées par un rideau, monté sur 4 colonnes, un rideau qui ne va pas jusqu'en haut. Il y a un espace entre le plafond et le rideau. Dans la première partie, qui s'appelle le lieu saint, on a ici la table avec les pains, c'est-à-dire 2 piles de 6 pains. Ici, on a un autel qui est l'autel des parfums, où on va brûler des parfums par conséquent. Et ici, le fameux chandelier à 7 branches. Ce sont les 3 objets qu'on a dans le lieu saint. Dans le lieu très saint qui est là, juste derrière, on a un seul objet qui est ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. C'est un coffre qui est fermé par un couvercle où se trouvent deux anges en position d'adoration, sculptés. Et à l'intérieur de ce coffre, il y avait à l'origine trois choses. La verge de Aaron, le souverain sacrificateur, qui avait fleuri en signe d'autorité. Un pot avec de la manne, et on avait parlé la dernière fois de la manne, c'est la nourriture que Dieu avait donnée au peuple israélite dans le désert. Une espèce de quelque chose indéfinissable, blanc, qui tombait la nuit, qui fondait au soleil, qu'ils récoltaient chaque jour pour leur nourriture, et s'ils le gardaient pour le lendemain, ça pourrissait. Sauf le vendredi, ça se conservait sur la journée du sabbat. Alors, on reviendra sur ces choses-là, mais l'essentiel, ce sont les deux tables de pierre sur lesquelles Dieu avait inscrit de son doigt les 10 commandements. Ces 10 commandements avaient fait l'objet de l'alliance, du pacte entre Dieu et le peuple, raison pour laquelle elles étaient contenues dans l'arche de l'alliance qui se trouvait au fond du temple, du sanctuaire. Ce temple-là, construit dans le désert, est un temple démontable. Tout est construit pour pouvoir être démonté, transporté plus loin et reconstruit. Seulement, lorsque le peuple est arrivé dans la terre promise, ils se sont installés et après un certain temps, le roi David a voulu construire le temple. Finalement, c'est son fils Salomon qui va le construire, en dur, en vrai, etc., sur le même schéma, mais dans une dimension différente. Ce temple de Jérusalem va être construit sur le même modèle, donc avec la même signification, jusqu'au moment où il va être détruit par le roi Nebuchadnezzar, au 6e siècle avant Jésus. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar détruise le temple au 6e siècle, il y avait l'arche avec dedans les 10 commandements seulement. Le pot avec la manne et le bâton avaient disparu. Mais il restait les 10 commandements. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'arche? On ne sait pas. Ce qu'on sait, on le sait par la tradition juive qui dit, mais ce n'est pas dans le texte biblique, que Jérémie, qui était le prophète à l'époque, qui a fait la transition entre avant la déportation et après la déportation, Jérémie, qui avait été averti par Dieu de ce qui allait arriver, est entré dans le temple, il a pris l'arche et il a été la cacher quelque part. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est devenue? La Bible ne nous dit rien là-dessus. Regardez bien, le temple a été détruit. Il a été reconstruit par la suite. C'est le temple dans lequel Jésus est entré, Jésus a enseigné, Jésus a fait ses miracles. Seulement, dans ce temple-là, il n'y avait pas d'arche d'alliance. Le lieu très saint était vide. Alors, je peux imaginer que les Juifs ont fait un facsimilé, ils ont refait une arche de l'alliance, mais il n'y avait rien dedans. Alors, vous pensez à une chose, c'est que lorsque Jésus venait dans le temple, ce temple, en fait, ne contenait même plus les tables de pierre où Dieu avait inscrit les 10 commandements. Seulement, lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, montrant par là que le lieu très saint était ouvert, et tout le monde a pu découvrir que soit il n'y avait rien dedans, soit il y avait une arche refabriquée, mais sans rien dedans, montrant par là que l'alliance que Dieu avait faite avec ce peuple-là était vide maintenant. Ça, c'est juste pour vous décrire le lieu saint et le lieu très saint. On ira voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Maintenant, dans le parvis, on a deux ou trois éléments que j'aimerais regarder avec vous. Ici, on a la porte qui est donc toujours à l'est. Dès qu'on rentre, on a l'autel des sacrifices où se faisaient tous les sacrifices. Une cuve remplie d'eau où les prêtres se lavaient les mains et les pieds avant de rentrer dans le temple pour faire le service. Pour résumer, disons, le service du temple peut être compris par rapport à deux sortes de services. D'abord, le service quotidien. Le service quotidien, c'était un sacrifice qui était fait chaque matin et chaque soir. Un agneau d'un an, sans défaut, qui était sacrifié ici sur l'autel, Et le sang de cet agneau était amené dans le lieu saint du sanctuaire. La notion de sacrifice, elle est très ancienne. Elle commence dans Genèse au chapitre 3. Quand Adam et Ève ont été mis à la porte du jardin d'Éden, vous vous souvenez qu'ils ont essayé de s'habiller avec des feuilles. Bon, vous savez bien que le système feuilles, ça ne marche pas fort. Au chapitre 3, on apprend que Dieu va les couvrir avec des habits de peau. Mais pour faire des vêtements avec des habits de peau, il faut tuer les animaux. Donc Dieu a montré comment faire les premiers sacrifices. Et il y a déjà là toute une pédagogie parce que l'idée d'être couvert par le vêtement, c'est une image qui va traverser toutes les Écritures et qui est associée à ce que Jésus fait pour nous. Couvert par le manteau de la justice du Christ, pour reprendre le langage biblique. Dès le jardin d'Éden, par la notion de sacrifice, Dieu veut enseigner à l'humanité que la solution humaine au péché ne tiendra pas le coup, qu'il faudra une solution divine au péché et que cette solution coûte pas la vie du pécheur, la vie de l'innocent, la vie de l'agneau. Maintenant, quand Jésus arrive et que Jean-Baptiste le présente au peuple pour la première fois, au moment du baptême, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour un juif, c'est immédiatement lié au sacrifice qui est fait dans le temple et au sacrifice de la Pâque, à l'agneau pascal. Quand Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu, le lien est fait entre tout le système de sacrifice, depuis le premier dans le jardin d'Éden jusqu'au moment de Jésus, sont tous destinés à faire comprendre un principe fondamental qui est le principe de la substitution. Le pécheur n'a pas besoin de mourir à cause de son péché. L'innocent peut mourir à sa place s'il le veut. L'innocent, ça sera Jésus. Les religions païennes, pour dire ça succinctement, ont pris leur notion de sacrifice de l'enseignement biblique, de l'enseignement de Dieu. Seulement, les religions païennes ont à leur base un principe qui est tout à fait opposé au principe de l'enseignement de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est méchant, Dieu est fâché, Dieu est en colère contre l'être humain, il faut absolument l'apaiser à tout prix pour qu'il nous laisse tranquille. Plus le Dieu est fâché, plus le sacrifice doit être important pour qu'il se calme. Et par conséquent, l'être humain doit faire quelque chose pour s'attirer les faveurs du Dieu. On retombe là dans un système de salut par les œuvres. C'est l'être humain qui doit gagner la faveur de Dieu. Dieu avait donné un plan par lequel lui fait le sacrifice pour que l'être humain puisse être sauvé. La religion païenne, quel que soit le nom qu'elle va prendre, va en réalité renverser le plan de Dieu et demander à l'homme de faire quelque chose pour se sauver, pour se sortir d'affaire. Parce que Dieu est très méchant, parce que Dieu est très fâché, parce que Dieu est contre l'être humain. Alors que tout au travers des Écritures, Dieu essaye de faire comprendre qu'il est du côté de l'être humain. Souvenez-vous, dès le départ, quand Adam pêche, ce n'est pas Adam qui va chercher Dieu, Adam va se cacher. Celui qui va le chercher, c'est Dieu, qui court après lui. Adam, où es-tu? Bien sûr qu'il sait où il est, mais on en avait déjà parlé. C'est Dieu qui cherche l'homme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Et tout l'Ancien Testament, malgré les histoires qui nous étonnent un petit peu, et malgré le contexte historique qui nous est très étranger, tout l'Ancien Testament est destiné à nous faire comprendre, et à faire comprendre aux gens de ce temps-là aussi, que le plan de sauvetage que Dieu a mis sur pied pour l'humanité est un plan d'amour. Dieu aime l'homme. C'est dans l'Ancien Testament que se trouve cette phrase « Je t'aime d'un amour éternel ». Dans le service journalier, il y avait donc un sacrifice qu'on appelait le sacrifice perpétuel, le sacrifice du matin et le sacrifice du soir, qui se faisait tous les jours, et le sang de cet agneau était apporté dans le lieu saint. L'autre chose en rapport avec le sacrifice, les sacrifices quotidiens, c'est que les gens du peuple venaient avec leurs animaux pour le pardon de leurs péchés. Un homme avait conscience d'avoir commis une faute quelconque, ou dans sa famille ou lui, il venait au temple avec son animal, il imposait les mains à l'animal pour indiquer le transfert de sa culpabilité sur l'animal, et c'est lui-même qui devait trancher la gorge de l'animal. Le sacrificateur ensuite prenait l'animal et faisait ce qu'il fallait faire sur l'autel. Remarquez bien que il est clair, bibliquement parlant, on le verra, que les sacrifices n'ont plus lieu d'être. Mais vous savez, si nous aujourd'hui, on devait aller sacrifier notre animal préféré, notre chien, notre chat, notre animal auquel on est attaché, pour expier pour notre faute, ça serait dur à faire. Hein? Et d'un autre côté, ça nous ferait réfléchir à deux fois. On aurait sous les yeux une idée du prix, de la conséquence. Parce que dans l'économie du Nouveau Testament, nous avons tendance à oublier que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas foudroyé chaque fois qu'on pêche que ce n'est plus le cas. Les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient destinés à faire comprendre la gravité du péché.
Une personne qui était pauvre dans le temps n'avait pas le même troupeau qu'une personne qui était riche. Du coup, qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là?
À l'époque, ils pouvaient prendre des pigeons. Dans la pierre de petits nids de pigeons, parce qu'ils élevaient les pigeons là-dedans pour les vendre, parce que c'était pas cher.
On a un bon exemple avec Jésus. Les parents de Jésus étaient pauvres. Et quand ils sont allés au temple présenter Jésus comme le premier-né, ils sont allés pour faire les sacrifices qui étaient liés à ça. Mais comme ils étaient pauvres, ils ont apporté deux colombes, qui étaient le sacrifice du pauvre. Mais ils ne les ont pas amenés de Nazareth, de Bethléem, ils les ont achetés là. Alors, c'est ce qui a donné lieu à tout le commerce que Jésus a condamné, parce qu'ils élevaient des moutons, ils élevaient des taureaux, ils élevaient des bœufs, ils élevaient tout un tas de choses, pour que les gens qui viennent au temple puissent acheter sur place. Finalement, c'était devenu quelque chose de très rituel, c'était fait à la chaîne, et ça avait perdu tout le sens, tout l'élément pédagogique qu'il y avait dedans a finalement disparu. On achetait l'animal, on l'amenait au sacrificateur, et puis voilà, c'était fini, on avait fait ce qu'il fallait. L'autre dimension, par rapport au service du temple, c'est une dimension annuelle. Il y avait 7 fêtes religieuses dans le calendrier juif, et ces 7 fêtes venaient à des moments très précis dans le courant de l'année et étaient toutes en rapport avec le ministère de Jésus. Différentes étapes, différentes phases du ministère de Jésus. On va prendre le sanctuaire, toute cette construction-là, comme une parabole, comme un outil pédagogique que Dieu donne pour enseigner aux hommes de tout temps comment Dieu veut les sauver. L'enseignement biblique du temple, c'est comme une maison à étage. On rentre dans une maison à étage, au rez-de-chaussée, il peut y avoir une salle de conférence, au premier étage, il peut y avoir un restaurant, au troisième étage, il peut y avoir des chambres, au quatrième étage, il peut y avoir des bureaux, etc. On est toujours dans le même bâtiment, mais à chaque étage, l'agencement de l'espace va être fait autrement. Mais on est toujours dans le même bâtiment. On peut donc étudier le sanctuaire, rester dans l'enseignement du sanctuaire, mais l'aborder de différentes manières. Ce qu'on va faire ces prochaines fois, c'est rentrer au niveau 1, un niveau simple de ce que représente le sanctuaire. Et puis on regardera les fêtes, ce qui serait un autre étage. On pourrait regarder la question du sang dans le sanctuaire, qui sera encore un autre étage. On pourra regarder aussi la notion prophétique par rapport au sanctuaire, qui est encore une autre dimension du sanctuaire. Et vous allez vous rendre compte que la question du sanctuaire est extrêmement importante parce que même si aujourd'hui il n'y a plus de sanctuaire, de temple, cette notion-là demeure jusqu'à la fin des Écritures, jusque dans l'Apocalypse, où on parle du temple. Lorsqu'on étudie le texte biblique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte qu'on retrouve la notion de temple dans 7 dimensions différentes au travers des Écritures. Sans rentrer dans les détails, le premier sanctuaire que l'on trouve dans les Écritures, c'est le Jardin d'Éden, où le vocabulaire qui est utilisé dans le Jardin d'Éden est très fortement associé au vocabulaire du temple lorsqu'il est construit dans le désert et après. Et on va retrouver cette dimension du sanctuaire jusqu'à la fin des Écritures, jusqu'à la fin des temps. Rentrons dans le sanctuaire. On veut s'approcher de Dieu, on veut rencontrer Dieu et on veut rentrer dans le domaine de Dieu qui représente ici le parvis, le sanctuaire. On va rentrer par la porte. Vous avez remarqué, il y a une seule porte. Une seule porte du côté de l'est. Alors, on va retrouver dans les Écritures cette notion de l'image de la porte. Regardez ce texte, Jean chapitre 10, versets 7 à 11.
Alors, il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte, par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
On a ici une image que Jésus prend et il dit « Je suis la porte ». C'est une image qui reprend quelque chose qu'on connaît à l'époque, c'est ce que les bergers faisaient. Ils étaient dans les champs, ils avaient généralement construit un muret en pierre jusqu'à une certaine hauteur, où ils parquaient leurs animaux la nuit, et il y avait une seule porte, et eux dormaient dans la porte, de sorte que les brebis ne pouvaient pas sortir. Jésus dit ici, voilà, moi je suis la porte. Et il dit, voilà, ceux qui viennent et qui ne passent pas par moi, ce sont des voleurs et des brigands. « Je suis la porte, dit-il au verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors, sans savoir exactement encore comment s'articule le plan de sauvetage que Dieu a mis en place pour l'humanité, je comprends une chose, c'est que ce plan a une pièce maîtresse centrale qui s'appelle Jésus, le Christ. Parce que je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là par un autre moyen que par la porte. Si je rentre par ailleurs, si j'essaie de passer par ailleurs, alors à ce moment-là, Jésus va dire, voilà, je suis un voleur et je suis un brigand. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir accès à Dieu et à ce qu'il me propose sans vouloir accepter son plan à lui pour l'obtenir. Alors, j'applique ça à notre situation chrétienne d'aujourd'hui. Vous pouvez parler avec des gens, des chrétiens, et vous pouvez parler avec eux longtemps. Ils vont vous parler d'un tas de choses, mais pas nécessairement de Jésus. Ils vont vous parler de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il ne faut pas faire, de tout ce qu'il faut être et ne pas être, mais pas de Jésus. Ce sont les fameux brigands dont Jésus parle, parce que pour ces gens-là, Dieu n'est pas d'abord accessible par la personne de Jésus. Le plan de sauvetage de Dieu n'est pas d'abord une personne. C'est une marche à suivre, c'est un système, c'est une doctrine. La marche à suivre, elle est nécessaire, oui. Mais elle vient en son temps. Le christianisme, c'est d'abord une personne. Et dans les études qu'on a fait jusque-là, d'ailleurs, on a souligné abondamment au travers des textes le fait que le lien avec Dieu, le salut, comme on l'appelle, c'est une question de relation avec Dieu. On avait défini le péché comme une relation cassée. Par conséquent, le salut, être sauvé, ça va être restaurer la relation cassée, mais pas avec une chose, avec une personne. Et si je suis un chrétien pour qui Jésus n'a pas de place, mais je ne suis pas un chrétien, je suis un voleur et un brigand, comme Jésus l'a dit. Je rentre par la porte et je comprends que Jésus doit jouer dans ce plan du salut un rôle primordial, important. Je n'ai pas de choix. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un chemin au choix. Ce n'est pas comme notre société aimerait d'ailleurs que ce soit aujourd'hui. Choisis ton chemin. Si c'est bon pour toi, ben c'est très bien. Moi, je fais autre chose. En pensant que chacun peut choisir son chemin et que ça aille au même endroit. Non. Jésus a dit, je suis le chemin et il n'y en a pas 36. Ça veut dire être capable de dire, ce chemin-là, il convient. Mais je peux te dire à l'avance où il mène. Si ce n'est pas le Christ, il mène à la mort. Et chacun a la possibilité de faire son choix, bien entendu. Mais Jésus a dit, il y a un chemin. Et même chose pour la vérité. Il n'y en a pas 36 000. Il y a une vérité. Elle a été révélée dans sa parole. Je la prends ou je ne la prends pas. Maintenant, je rentre dans cette enceinte. Et la première chose que je rencontre, c'est l'autel des sacrifices. C'est la première chose à laquelle je suis confronté. L'autel des sacrifices. Alors, j'aimerais qu'on prenne un texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. On pourrait lire le chapitre en entier. C'est un de ces chapitres de l'Ancien Testament qui parle du sacrifice que Dieu va faire pour sauver l'humanité. Je vais relire des extraits. Je suis dans Ésaïe 53 et je commence au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un petit peu plus loin, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Un peu plus loin, au verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Voilà quelques extraits du chapitre 58 d'Ésaïe qui parlent du sacrifice qui est fait par Dieu. Et on retrouve, nous qui connaissons l'histoire de Jésus, des éléments reliés à la vie de Jésus. Son tombeau parmi les riches, son sépulcre parmi les méchants, etc. Ce chapitre est une description de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est la notion de substitution que je mentionnais tout à l'heure par rapport à l'agneau. La pédagogie que Dieu avait utilisée pour enseigner le plan du salut dans l'Ancien Testament était destinée à faire comprendre que c'est l'innocent qui allait porter la conséquence de mon péché. De la même manière que Jésus va porter la conséquence de mon péché si je l'accepte comme mon sauveur personnel. Par conséquent, cet autel des sacrifices représente le sacrifice de l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour le péché du monde. Et là, il y a, je crois, quelque chose de très important à noter. Quand je veux m'approcher de Dieu, la première chose que je rencontre, ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire pour lui, c'est ce que Dieu a fait pour moi. La première chose que je rencontre, ce n'est pas le sacrifice que Dieu me demande de faire pour lui, c'est le sacrifice que lui a fait pour moi. Et ça ne peut pas être autrement, parce que, comme le disent les Écritures, moi je ne peux rien faire. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, disait « Il y a en moi une loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne peux pas. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Donc je suis démuni. Il n'y a rien que je puisse faire. Je suis en réalité entièrement dépendant de ce que Dieu fait pour moi. Pas de ce que moi je peux faire pour me sortir d'affaire, ni même pour plaire à Dieu. » Et c'est la raison pour laquelle le plan du salut commence par l'autel des sacrifices pour me faire comprendre le plan du salut commence par ce que Dieu a fait pour toi. Et là, je me retrouve avec la pièce centrale des Écritures, le sacrifice de Jésus. Maintenant, vous vous souvenez de ce passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 39 et 40, où il est dit « Les Écritures rendent témoignage de moi ». Et Jésus dit aux gens de son temps, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Autrement dit, toutes les Écritures ont comme objectif de nous faire comprendre ce que Jésus est venu faire pour nous. Et derrière toutes ces histoires bizarres de l'Ancien Testament, il y a exactement de la même manière un enseignement pour nous faire comprendre, par des types, par des images, par des paraboles, ce que Jésus est venu faire, quel est son rôle, comment il nous sauve. Toutes les Écritures que nous avons sous les yeux, Ancien et Nouveau Testament, ont comme centre le ministère de Jésus pour nous, avant la croix, pendant la croix et après la croix. Tout va se centraliser sur la personne de Jésus. Et toutes les Écritures sont là pour nous faire comprendre que le sacrifice de Jésus, qui est le sacrifice de Dieu pour nous sauver, est l'expression suprême de son amour pour nous.
Nous sommes dépendants de ce que Dieu... C'est pas évident. Dans un monde d'aujourd'hui où on prône l'indépendance totale et complète, si on est dépendant, on n'est rien parce qu'on est dépendant.
L'évangile biblique, en fait, est à contre-courant de ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. C'est une contre-culture. Reconnaître qu'on est limité, qu'on est pécheur, qu'on est mortel, voilà, qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, c'est un chemin d'humilité et parfois même d'humiliation qui est à contre-courant de tout ce qu'on nous fait entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être grand, il faut être riche, il faut être fort, il faut être tout ça.
Ça t'enlève ton mérite à toi-même pour la gloire, c'est dur à accepter au début.
C'est pas seulement du contre-courant par rapport à la société dans laquelle on est, c'est du contre-courant par rapport à notre nature, à nous, indépendamment de la culture dans laquelle on est. Exemple. Après le déluge, on a l'événement qui nous est raconté dans les Écritures de la tour de Babel, qui est un événement extrêmement important parce qu'il est le début de tout ce symbole qu'on va retrouver jusque dans l'Apocalypse avec Babylone. Tout le symbolisme de Babylone par opposition à Jérusalem commence là. Mais à la tour de Babel, qu'est-ce qui se passe? On a les gens de cette époque qui ont déjà une notion complètement déformée de Dieu et qui disent « Dieu, c'est un méchant qui nous tape dessus et qui nous tue si on n'est pas comme il veut qu'on soit. Donc nous, on va se protéger, on va se construire une tour pour aller jusqu'au ciel. » Souvenez-vous, le diable avait dit dans le jardin d'Éden à Ève, « Vous serez comme Dieu. » Exactement la même chose. Autrement dit, le plan, juste après le déluge, de l'humanité, c'est de se hisser jusqu'à Dieu, par ses propres forces. Alors que le plan de Dieu, révélé au travers de toutes les Écritures, c'est pas l'homme qui monte jusqu'à Dieu, c'est Dieu qui descend jusqu'à l'homme. Le plan de Dieu qui descend du ciel pour nous sauver s'exprime merveilleusement dans Jésus, qui s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire
Dieu avec nous.
Vous voyez qu'indépendamment même de la culture, le plan que Dieu nous donne pour être sauvés est un plan contre nature, qui nous prend à rebrousse-poil, disons, d'apprentissage à la dépendance à lui. Et dépendance dans le sens noble, pas dans le sens servile. C'est pas une démarche de destruction, c'est pas une démarche avilissante, c'est une démarche de reconstruction, en fait. Parce que toute notre indépendance, en commençant par le jardin d'Éden, c'est en réalité la fameuse coupure avec Dieu. Avant de passer au symbole suivant, j'aimerais lire encore un ou deux textes par rapport au sacrifice de Jésus. On va revenir dans l'évangile de Jean, si vous voulez, au chapitre 10. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 17 et 18.
Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Merci. La mort de Jésus n'est pas un assassinat. La mort de Jésus n'est pas un meurtre. La mort de Jésus est un sacrifice. Je donne. Et Jésus dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Parce que Jésus n'a pas connu le péché, par conséquent, la mort était une injustice en ce qui le concerne. La mort de Jésus n'est pas un accident de l'histoire. C'est Jésus qui est venu et qui a donné sa vie. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est extrêmement significative. On ne va pas la lire en entier, mais j'aimerais m'y référer dans Genèse chapitre 22. C'est une histoire qui est extrêmement chargée de signification par rapport à Jésus. Vous vous souvenez que Abraham, trop âgé, sa femme aussi, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc l'enfant qui est né d'Abraham et de Sarah est un enfant miracle. Il est le fils de la promesse. Vous vous souvenez que Dieu avait promis qu'il allait avoir un fils, ils ont eu du mal à le croire, mais finalement il est arrivé. C'est Isaac. Maintenant Isaac est un jeune et Dieu va dire à Abraham, prends ton fils et va le sacrifier à l'endroit que je vais te montrer. Ce qui est déjà incroyable en soi parce que Dieu est tout d'un coup en train de demander un sacrifice humain. ce qui est impensable. Et pourtant, Abraham, qui connaît Dieu et qui connaît la voix de Dieu, va obéir par la foi. Et Abraham va devenir le père des croyants à cause de cet acte de foi en Dieu. Alors, le texte le dit ici, verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous remarquez ici, il est dit, « Prends ton fils, ton unique, Isaac. » Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. Il y en a eu avant et il y en a eu après. Abraham s'en va, il va là où Dieu lui montre, et en cours de route, le fils, qui n'est pas bête, il dit, mais verset 7, « Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Une parole très lourde de sens, prophétique, dans laquelle Abraham, sans le savoir, est en train de dévoiler tout le plan du salut en disant « L'agneau pour le sacrifice, c'est Dieu qui va le pourvoir. » Il ne dit pas plus que ça à son fils. Et finalement, il arrive sur le mont Morija, qui va devenir plus tard Jérusalem, le mont du Temple. Et là, il va faire comprendre que c'est lui qui est destiné à être sacrifié. Isaac accepte. Et au moment où Abraham est prêt à sacrifier son fils, je ne sais pas si on arrive à imaginer ce que ça peut représenter, Dieu lui dit arrête. La mort de ton fils ne sauvera personne. Ce ne sera que le sacrifice que Dieu, moi, je vais faire, qui peut sauver qui que ce soit, et Dieu lui donne un bélier à la place. Image extraordinaire du plan du salut en Jésus-Christ. Je peux faire tous les sacrifices que je veux, ils ne me sauveront jamais. Ce ne sera que le sacrifice que Dieu fait en Jésus-Christ qui a le pouvoir de me sauver, et c'est à ce sacrifice-là que je suis invité à adhérer. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand je découvre l'ampleur du sacrifice de Jésus pour moi, quand je découvre l'amour de Dieu pour moi, je suis invité à répondre à ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Je me retrouve dans la situation dans laquelle Pilate a mis le peuple hébreu lors du tribunal de Jésus. Que ferais-je de Jésus? Je prends ou je laisse? Dans la mesure où, m'approchant de Dieu, c'est là la première chose que je rencontre, il va falloir que je me positionne par rapport à ce que Jésus a fait. Dans le fameux texte que tout le monde connaît par cœur de Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va falloir que ce sacrifice que Dieu a fait en Jésus-Christ et qu'il a mis à disposition de tous, il va falloir que moi, je me positionne par rapport à ce que Jésus a fait par le moyen de la confiance, la foi. C'est la même chose. Est-ce que je suis prêt à adhérer à ça par foi, par confiance ? Et à en recevoir les bénéfices pour moi personnellement. Devant ce sacrifice, je ne peux pas rester sans rien faire, je dois me positionner. Comment est-ce que je vais le faire? C'est le symbole suivant. Le symbole suivant exprime ma réponse à ce que Jésus a fait. On en a un exemple dans Actes au chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, on a le fameux discours de Pierre lors du jour de la Pentecôte. Vous vous souvenez que 50 jours après Pâques, donc 50 jours après la crucifixion de Jésus, il y a la fête de la Pentecôte à Jérusalem, fête pour les Juifs qui représente le moment où Dieu a donné les 10 commandements au peuple dans le désert, qui se situe effectivement 50 jours après la sortie du peuple hors de l'Égypte. Suite au discours de Pierre, poussé par le Saint-Esprit, les gens qui sont là, qui avaient déjà oublié ce qui s'était passé à Pâques avec la crucifixion de Jésus, sont fortement touchés. Et il nous est dit au verset 37 et 38, si quelqu'un veut bien lire ça, acte 2, versets 37 et 38.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Merci. Les gens qui ont écouté ce discours de Pierre ont été touchés, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Réponse de Pierre, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez qu'à recevoir ce qui vous a été offert. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir deux choses. Numéro un, le pardon. Numéro deux, le don du Saint-Esprit. Les deux, bien entendu, vont ensemble parce que l'un va être la dynamique de l'autre. Mais la réponse, c'est tu as découvert l'amour de Dieu pour toi, tu te sens coupable parce que tu as participé aussi à cause de ton péché, de ta nature à la mort de Jésus, eh bien, repens-toi et sois baptisé. Et la cuve qui est juste derrière l'autel avant d'entrer dans le sanctuaire représente le baptême. Le baptême, on en avait déjà parlé précédemment, je ne parle pas là de l'acte d'être baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'eau. Baptizo, le mot baptême vient d'un mot qui veut dire plonger dans l'eau. Le baptême, c'est véritablement une image de la mort et de la résurrection. Et quand je parle du baptême, je ne parle pas de la cérémonie ou du symbole, je parle de tout ce qui va avec. Repentance, confession, conversion et engagement. Quatre étapes qui constituent une expérience particulière avec Dieu et qui nous amènent à vivre le symbole de la mort et de la résurrection, de la mort dans notre famille de Adam numéro 1 dont on avait parlé, et de la résurrection dans la famille de Adam numéro 2, qui est une autre manière de parler de Jésus dans 1 Corinthiens 15. Le parvis, en fait, ne contient que ces trois éléments-là, la porte, l'autel des sacrifices et la cuve des ablutions. Il n'y a que ça dans le parvis. C'est la première étape dans le plan du salut, c'est dans le parvis que je reçois le pardon, avec un P majuscule. Le pardon que Dieu me donne quand, faisant alliance avec lui, il me considère comme si je n'avais jamais péché. Le péché, le problème du péché singulier dont on avait parlé précédemment, trouve sa solution dans le parvis. Pour simplifier les choses, parvis égale pardon. Il nous reste deux lieux à regarder, le lieu saint et le lieu très saint, et on aura, dans le sanctuaire, on aura les trois grandes étapes du plan du salut. Trois grandes étapes qui contiennent des sous-éléments, évidemment, mais trois grandes étapes qu'on retrouvera dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Parvis, pardon. Une fois que j'ai été baptisé, que j'ai compris l'amour de Dieu pour moi, une fois que mon cœur a été touché par cet amour et que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, je vais rentrer dans le lieu saint. Rentrer dans le lieu saint correspond aussi à être greffé au corps de Christ. Regardez dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13.
Le corps forme un tout, mais apportant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit.
Merci. Le baptême et l'expérience qui va avec, je ne parle encore pas ici simplement du rite, du symbole en soi, mais de toute l'expérience du baptême, nous incorpore au corps de Christ, qui est l'Église. Autrement dit, quand je vis l'expérience du parvis et que je viens pour rentrer dans le temple, dans le lieu saint, je rentre en même temps dans l'Église, parce que le baptême m'a incorporé, m'a greffé au corps de Christ. Remarquez, on en reparlera quand on étudiera l'Église, que les enfants de Dieu, ceux avec qui l'alliance a été reconstruite, ne sont pas lâchés dans la nature, ils sont intégrés dans une famille qui est l'Église. Maintenant, je rentre ici dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a trois objets. La table avec les pains, l'autel avec les parfums et le chandelier à cette branche. On va regarder la table avec les pains. Il y a ici deux piles de 6 pains. Il y en a pour tout le monde, pour tout le peuple de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce pain? On va regarder dans Jean chapitre 6. Il y a là un discours de Jésus qui donne suite au miracle de la multiplication des pains. Jésus va nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, avec le casse-croûte d'un petit garçon qui vient avec 5 pains et 2 poissons. Jésus, après la multiplication des pains, va prononcer un discours, le discours sur le pain de vie. Les gens, eux, sont encore en train de parler de casse-croûte. Jésus, lui, essaie de les faire décoller pour parler spirituellement et ils ne le suivent pas. Et dans un sens, je peux comprendre parce que Jésus va dire un certain nombre de choses qui, à prime abord, sont un peu bizarres. Regardez par exemple, Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Un peu plus loin, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Un peu plus loin, verset 48. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Un peu plus loin, verset 53. « Je le dis, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Eux qui viennent d'avoir le casse-croûte la veille sont encore sur histoire de manger. Et Jésus est en train de dire des choses pareilles. Pour eux, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il est en train de parler de quoi? De sacrifice humain? Il est en train de parler de rites païens? C'est la raison pour laquelle, au verset 66, il est dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Jésus fait bien comprendre qu'il ne parle pas du casse-croûte. Il dit, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jésus dit, « Je suis le pain. » Mais ça, j'allais dire, c'est du langage patois de Canaan. On est habitué dans l'Église chrétienne à tout un tas d'expressions qu'on emploie. Mais si on gratte un petit peu, pas tout le monde sait ce que ça veut dire, ces images-là. Quand on dit « Jésus est le pain » et que je dois me nourrir de Jésus, concrètement, en français courant, ça veut dire quoi ça? Si je passe 4 heures par jour devant la télévision, je vais nourrir mon esprit avec quoi? Avec ce qu'on va me donner dans la boîte. Si je passe le même temps à sonder les Écritures, je vais être nourri par quoi? Par la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Je suis le pain », il est en train de dire « Il faut que vous me mangiez ». La première manière que j'ai de manger Jésus, c'est de me nourrir spirituellement et mentalement de ce que Jésus a donné. De me nourrir de son exemple, de me nourrir de sa parole, de me nourrir de la manière dont il agit, dont il réagit, dont il résiste à la tentation, dont il vit. L'apôtre Paul dit qu'on est transformé à l'image de ce qu'on ressemble dans 2 Corinthiens. Si je contemple le Christ dans ce qu'il est, c'est à son image que je vais être transformé. Ça, c'est la première manière de manger Jésus. Autrement dit, quand j'ai ici, dans le lieu saint, le pain qui représente encore Jésus, me nourrir de Jésus, pour moi aujourd'hui, c'est passer du temps, chaque jour, à l'étude de sa parole. Et là, on se retrouve dans notre vie moderne, avec les inconvénients, avec le temps, avec tous les problèmes que ça peut poser, de s'imposer la discipline d'avoir le temps, de passer du temps dans l'étude, dans la communion avec le Christ au travers de sa parole. Et quand je lis l'histoire de Jésus, l'aveugle, c'est moi. Le paralytique, c'est moi. Le sourd, c'est moi. On parle ici de la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu, ça veut dire qu'elle parle encore aujourd'hui. Comment est-ce que je vais entendre Dieu me parler? Parce que je vais avoir une vision comme les prophètes? Non. Comment est-ce que Dieu va me parler aujourd'hui? En rappelant à mon esprit les portions de sa parole que j'ai intégrées les faisant ressortir à la surface de ma conscience au moment opportun. Ce pain représente ma communion avec Jésus chaque jour, parce que chaque jour, je me nourris. On a besoin de rétablir ce lien et de développer ce contact. Ici, on a l'autel des parfums. Alors, dans la Bible, que représentent les parfums? Je veux savoir, dans la Bible, ce qui m'est dit sur le parfum quand le parfum est utilisé du point de vue symbolique. Alors, on va regarder pour ça dans Apocalypse. Dans Apocalypse, au chapitre 5, c'est une vision de l'apôtre Jean, et dans cette vision, il voit le sanctuaire céleste, celui qui a servi de modèle à Moïse. Et il est dit, Apocalypse chapitre 5, verset 8, si quelqu'un veut lire ça.
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints.
Voilà, on a la clé déjà. Mais lisons un texte un peu plus loin au chapitre 8, si vous voulez bien, qui va dans le même sens. Apocalypse chapitre 8, le verset 3.
Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or, devant le trône avec les prières de tous ceux qui appartenaient à Dieu.
Merci. On est donc bien dans ce contexte-là. Il voit un ange à l'autel avec un encensoir, c'est donc pas l'autel des sacrifices, c'est l'autel des parfums, afin qu'il les offre avec la prière de ceux qui appartiennent à Dieu, la prière des saints dans la version que j'ai. Donc cet autel des parfums représente la prière du croyant. Et l'image est extrêmement belle parce que je vous disais tout à l'heure que le rideau ne monte pas jusqu'en haut. Or, la porte est ici. Quand on faisait brûler des parfums, le parfum montait et passait de l'autre côté. On a donc ici la prière. Il y a trois sortes de prières, pour être schématique. Il y a la prière en public, celle que l'on offre au moment du service du culte, par exemple. Deuxièmement, il y a la prière familiale. C'est un cercle particulier, le cercle de la famille. Et puis, il y a la prière personnelle, la troisième sorte de prière. La prière que moi, j'adresse en privé à Dieu. La prière en public, qu'elle soit dans le culte ou dans la famille, elle a sa place, elle a son importance. Mais la prière qui va me permettre de développer avec Dieu un contact personnel, une intimité, c'est la prière que je vais développer chaque jour avec Dieu dans mon lieu secret, comme dit l'Évangile. C'est la prière dans laquelle je vais parler à Dieu, où je ne vais pas lui réciter une prière que j'ai apprise, mais où je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur, de positif, de négatif, où je vais parler à Dieu. Si le christianisme est véritablement une personne et une relation avec une personne, je ne peux pas me permettre dans ma prière de répéter des formules toutes faites qui n'ont pas de sens par rapport à ce que je vis maintenant. Autrement dit, ma prière en public, ma prière en famille, elle va être nourrie par ma vie de prière personnelle. J'ai besoin de temps avec Dieu pour lui parler et pour l'entendre me parler au travers de sa parole. Et vous voyez que déjà ici, on est en train de rétablir une communication, une communion, un lien particulier par les moyens que Dieu m'a donnés. Pas par mes moyens à moi. Il faudra qu'on regarde le chandelier et qu'on avance la prochaine fois. Mais vous voyez qu'il y a dans ces éléments-là des images qui correspondent d'une façon très concrète à notre vie chrétienne pratique de chaque jour. Le sanctuaire, par conséquent, dans ces trois dimensions, est en train de nous expliquer comment nous pouvons rentrer dans le plan que Dieu nous a donné et recevoir son pardon et la reconstruction qui va avec. Si mon christianisme n'a pas d'implication dans ma vie personnelle concrète, c'est une théorie, c'est un dogme, c'est une philosophie, c'est pas le christianisme. Dieu ne veut pas seulement me pardonner, Dieu veut me restaurer. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous voulons te remercier de ces images que tu nous as données pour comprendre ton amour, pour comprendre ta grandeur, ta sagesse, dans ce plan que tu as mis sur pied pour nous sauver. Seigneur, nous comprenons aussi que nous sommes chargés de tout un héritage et de toutes sortes d'idées à ton sujet. Nous voudrions que, en étudiant ta parole, l'image de ton caractère, de ton amour, apparaisse de nouveau à nos yeux dans toute sa grandeur. Seigneur, nous te prions de nous permettre de comprendre un peu mieux ton amour, de comprendre un peu mieux ce à quoi tu nous appelles, de comprendre aussi davantage les temps dans lesquels nous sommes, l'urgence des temps que nous vivons, parce que nous comprenons que Jésus revient bientôt. Seigneur, mets dans nos cœurs ce désir d'être prêt et d'être là où nous sommes, de simples et humbles témoins de Jésus-Christ, de son amour et de ce qu'il a fait pour nous. Accorde-nous, Seigneur, de garder tes paroles dans notre cœur et qu'elles nous fassent du bien, qu'elles nous guérissent, qu'elles nous fortifient et qu'elles nous donnent chaque jour le courage de continuer notre marche comme des disciples de Jésus. C'est ce que nous te demandons en son nom. Amen.